Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
C'est une année intense qui s'achève pour Benoît XVI, deux voyages internationaux au Mexique et Cuba puis au Liban pour redonner l'espérance et affermir la foi, la rencontre mondiale des familles à Milan, le synode pour la nouvelle évangélisation, le cinquantenaire de l'ouverture du Concile Vatican II, le lancement de l'année de la foi, la publication du troisième tome de sa trilogie sur Jésus, la liste est longue sans oublier ses premiers tweets, un événement qui a eu un retentissement planétaire. Nous voici à l'heure des bilans, nous n'échapperons pas à cet exercice. L'actualité, c'est toujours la Syrie où la situation des chrétiens devient précaire. Le pape tend la main au nouveau patriarche grec orthodoxe. Nous avons la responsabilité, lui écrit Benoît XVI, de manifester de manière encore plus visible la réalité spirituelle de la communion qui nous unit déjà, même si elle est encore incomplète. Le 28 décembre, c'est la mémoire liturgique des saints innocents. Au Gabon, les évêques ont pris une initiative courageuse et inédite, une journée nationale de prière a été célébrée pour la protection de la vie et la lutte contre les crimes rituels. L'identité catholique en dialogue avec le monde et la liberté religieuse, la main tendue aux non-croyants, la foi et la paix. Voilà quelques thèmes que l'on retrouve le plus fréquemment dans les interventions du pape pendant l'année 2012, ainsi que la défense de la famille, la seule force capable de transformer le monde, mais qui est aujourd'hui toujours plus menacée. Parmi les fils conducteurs de l'année, on retiendra par ailleurs la volonté de transparence, qui a porté des fruits significatifs, notamment en matière de gestion financière. Sans se départir de sa sagesse, de son humilité et de sa douceur devenue proverbiale, Benoît XVI a offert dans la tourmente une image de courage et de fermeté en affrontant avec détermination les défis venus de l'extérieur, mais aussi de son entourage le plus proche. C'est l'affaire Vatilix qui a fait tant de bruit. Son propre majordome a soutiré des documents confidentiels de l'appartement pontifical pour les livrer à la presse. Benoît XVI, très affecté, avouera publiquement sa tristesse.
Hanno recato tristezza nel mio cuore. Ma non si è mai offuscata la ferma certezza.
Mais le pape est absolument certain que malgré les faiblesses humaines, les difficultés et les épreuves, l'Église est guidée par l'Esprit Saint et que le Seigneur ne cessera jamais de la soutenir sur son chemin. Pour Benoît XVI, la fraternité et la réconciliation passent par la recherche de la vérité. Pendant l'année 2012, ce pape âgé de 85 ans, dont l'érudition et la finesse continuent de frapper les esprits, a fait un geste à l'égard des divorcés. S'est remarié. Il a fait preuve de miséricorde vis-à-vis de la fraternité Saint-Pédis sans pour autant céder au compromis. Il a publié un motu proprio sur le service de la charité et a institué une académie pontificale de la latinité. Il a proclamé 7 nouveaux saints et 2 docteurs de l'Église. Il a créé 28 nouveaux cardinaux au cours de 2 consistoires en s'efforçant d'accentuer l'universalité de l'Église. Il a multiplié les appels en faveur des réfugiés et des migrants. Il a soutenu le combat actuellement mené par les évêques français, accueillis avec chaleur lors de leur visite ad limina. En Amérique latine, il a pointé du doigt la violence, la corruption et le trafic de drogue. Et à Beyrouth, à quelques kilomètres du théâtre d'une guerre civile sanglante, il a prêché le courage et la réconciliation aux jeunes Syriens, chrétiens et musulmans.
Il faut que l'ensemble du Moyen-Orient, en vous regardant, comprenne que les musulmans et les chrétiens, l'islam et la chrétienté, peuvent vivre ensemble sans haine, dans le respect des croyances. Et le respect de chacun peut bâtir ensemble une société libre et humaine.
Pendant la 7e année de son pontificat, loin des aspects médiatiques, Benoît XVI n'a jamais cessé d'annoncer l'Évangile, car l'Église existe pour évangéliser. C'est aussi le devoir de tous les chrétiens face à la désertification spirituelle qui caractérise le monde contemporain. Dieu n'est ni dans le vacarme, ni dans les faux remèdes ou dans l'égoïsme. En cette année de la foi, Benoît XVI demande aux catholiques de ne prendre que l'essentiel, pas de bâton, ni de sac, ni d'argent, ni même de pain, mais l'Évangile et la foi de l'Église. l'Église. Il les exhorte à faire des choix cohérents, à défendre leur foi sans complexe sur tous les fronts, de la famille à la fin de vie, en passant par la justice sociale. Les principes que défend l'Église ne sont pas seulement des vérités de foi, ils sont inscrits, selon Benoît XVI, dans la nature humaine et identifiables par la raison. Je vous le disais en titre, une journée de prière pour les victimes des crimes rituels a été organisée au Gabon par la Commission épiscopale Justice et Paix. Cette initiative est une première dans ce pays où cette question des crimes rituels est un dossier sensible. Au programme, un moment de prière et de méditation au séminaire Saint-Jean de Libreville, puis la procession jusqu'à la cathédrale suivie de la messe. Au début de l'année, la conférence épiscopale du Gabon s'était prononcée sans équivoque contre les crimes rituels qui tendent à être banalisés dans ce pays. Le problème prend de l'ampleur et tend à devenir un phénomène de société. Selon l'association de lutte contre les crimes rituels gabonaise, près de 40 assassinats auraient ainsi été perpétrés depuis le début de l'année. Jean-Elvis Ebangodo est le président de cette association. Lui-même a perdu son fils lors d'un crime rituel.
En souvenir de toutes ces personnes au niveau national, des personnes vulnérables, des personnes impuissantes, qu'on égorge ici dans notre pays, qu'on déteste tout le temps, nous sommes d'accord, nous sommes tombés d'accord que nous devons célébrer cette journée-là. Elle est importante à la mémoire de tous nos proches qui sont disparus, assassinés par une certaine élite gabonaise. Chaque semaine, une personne est assassinée, mutilée dans notre pays. C'est un problème de société qui a été resté longtemps tabou, mais depuis 2005, nous, parents victimes, nous avions perdu nos enfants le 3 mars 2005. Nous nous sommes constitués en association pour briser ce tabou, pour briser l'omerta. Nous essayons de travailler pour la mise en place d'un état de droit. Le droit ici, c'est le droit à la vie que nous défendons.
Comment expliquer qu'il y ait tant de crimes rituels au Gabon?
C'est une certaine élite qui croit à la vie facile, qui déforme tout ce qui est programmé, disons, tout ce que le Seigneur a laissé. Ces gens sont là uniquement pour déformer les valeurs. Ces valeurs, à savoir l'amour du prochain, le travail bien fait et la justice dans la société. Ils tuent sans raison pour nous parce que nous ne savons pas pourquoi réellement ils le font. Moi, si vous parle, mon rêve, c'est de voir tous les Gabonais vivre dans la paix et que ça se termine une bonne fois pour tous le cannibalisme qui règne dans notre société.
Et vous pensez que c'est votre rêve, il est réalisable? Est-ce qu'il y a des progrès dans ce sens?
Il y a des progrès. Le premier progrès, c'est que nous avons brisé le tabou, tout le monde en parle. Il y a un peuple qui s'éveille, c'est déjà un plus. Le second point positif, c'est que grâce à notre mouvement, nous avons mis en place au niveau du gouvernement deux institutions républicaines, à savoir l'Observatoire national des droits des enfants et la Commission nationale des droits de l'homme. Nous travaillons en partenariat avec les États-Unis qui nous soutiennent dans cette lutte. Nous travaillons maintenant avec l'Église catholique qui vient instituer la journée du 28 comme journée des crimes rituels au Gabon.
Des propos recueillis par Justine Vassogne. Les chrétiens unis peuvent devenir des témoins de paix au Moyen-Orient. C'est Benoît XVI qui l'écrit au nouveau patriarche grec orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient, dont le siège se trouve à Damas, un message fraternel dans l'amour du Christ. Alors que cette région du monde est en proie à la violence et à l'instabilité, le pape affirme que les disciples du Christ doivent plus que jamais s'efforcer d'offrir un témoignage authentique de vérité afin que le monde croie au message d'amour, de paix et de réconciliation de l'Évangile. Bernard de Cotigny.
Le nouveau patriarche Jean X a été élu le 17 décembre par le Saint-Synode réuni près de Beyrouth. Il succède au patriarche Ignace Katrazim, grande figure de l'orthodoxie qui s'est éteint le 5 décembre à l'âge de 92 ans. Une élection rapide perçue comme un signal fort face à la situation difficile des chrétiens dans la région qui vivent dans l'incertitude et la peur. Âgé de 57 ans, jusqu'ici métropolite pour l'Europe de l'Ouest et centrale, il résidait à Paris, Jean X pourra, selon les observateurs, servir de pont entre l'Orient et l'Occident. Le nouveau patriarche n'a d'ailleurs pas manqué, lors de ses premières interventions publiques, de marteler que les chrétiens resteront en Syrie, car cette terre est la leur. La situation est grave en Syrie, comme en Égypte ou en Irak. Les chrétiens veulent resserrer leur rang. Dans son message, le pape souhaite que les rapports se développent entre le patriarcat grec-orthodoxe et l'Église catholique, et que les deux parties travaillent à résoudre les questions qui les divisent. À ce propos, Benoît XVI encourage les travaux de la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe dans son ensemble. Enfin, le pape ne manque pas de prier le Seigneur de réconforter les victimes de la violence au Moyen-Orient et d'inspirer à chacun des gestes de paix. La date et le lieu de l'intronisation du nouveau patriarche ne sont pas encore connus du fait des événements de Syrie.
Il y a quelques mois, les églises orthodoxes de Syrie avaient écrit au Vatican pour l'informer des menaces qui pèsent sur les chrétiens dans le pays. J'ajoute qu'au mois de janvier, nous sommes invités à prier pour qu'en cette année de la foi, les chrétiens puissent approfondir la connaissance du mystère du Christ et témoigner avec joie de leur foi. Nous prierons également pour que les communautés chrétiennes du Moyen-Orient reçoivent du Saint-Esprit la force de la fidélité et de la persévérance, particulièrement lorsqu'elles sont discriminées. Telles sont les deux intentions choisies par l'apostolat de la prière. En France, le chômage a encore augmenté au mois de novembre. Il frappe désormais plus de 4 600 000 personnes. C'est le 19e mois consécutif de hausse et le nombre total est proche du record historique de janvier 1997. Près de 30 000 nouveaux demandeurs d'emploi sans activité ont été recensés pour le mois de novembre. Parmi les motifs connus d'entrée à Pôle emploi, les fins de CDD arrivent toujours en tête. Et les perspectives pour 2013 ne sont pas rassurantes. Une mauvaise nouvelle pour le gouvernement de Jean-Marc. Les remèdes apportés pour enrayer le chômage peinent à avoir de l'effet. Pour Pierre-Yves Madinier, président d'ATD Carmonde, le véritable défi est le chômage de longue durée qui peut être combattu. On l'écoute.
Personne ne peut se féliciter de ces mauvais chiffres. Ils traduisent une réalité que tout le monde connaît. Le mouvement ATD Carmonde travaille avec les personnes qui sont les plus en difficulté, les plus pauvres, et il est même constitué autour de ces personnes. Et nous savons depuis des années que l'aspiration à travailler est quelque chose qui est très très fondamental, au-delà même des questions de revenus. Nous avons proposé, lors de la conférence de lutte contre la pauvreté, une expérimentation sur un territoire sur lequel on se donnerait comme objectif de supprimer le chômage de longue durée. Aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif dont l'objectif soit de créer de l'emploi. L'emploi est un sous-produit d'autres choses désirables, et notre idée, c'est de regarder si on ne peut pas avoir un modèle économique qui soit viable, dans lequel l'objectif, ce soit véritablement de créer de l'emploi à partir des ressources qui sont présentes sur un territoire, des ressources humaines, avec ce que sont leurs compétences, en regardant la formation qu'elles doivent avoir, etc., et également avec les besoins de ce territoire qui ne sont pas satisfaits.
C'est-à-dire, pour vous suivre, il faudrait relocaliser d'une certaine manière les emplois, développer, on va dire, la dimension locale ou régionale.
Il s'agit de regarder sur un territoire tout ce qui n'est pas fait parce que ça ne trouve pas de financement. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui vivent dans l'isolement, qui n'ont pas accès à un certain nombre de services, je pense aux personnes âgées, je pense à tous les travaux qui, s'ils étaient financés, amélioreraient la vie du territoire. L'idée, c'est que c'est plus coûteux de priver les personnes qui désirent travailler de la possibilité de travailler que de leur permettre de contribuer à de la création de richesses, peut-être pas à la hauteur d'un emploi sur le marché, mais d'un emploi dont une partie pourrait être subventionnée. Alors aujourd'hui, il y a des choses auxquelles on pense, les entretiens d'espaces verts, des choses comme ça. Il y a toute une série d'éléments partiels. C'est aussi le système de travail dans les ateliers protégés pour les personnes handicapées. Il y a tout un système de dispositifs partiels. Ce qu'il manque, c'est véritablement de mettre tous les acteurs autour de la table et se donner comme objectif aucune personne qui souhaitent travailler, laisser de côté.
On vit encore trop dans le cloisonnement entre les collectivités locales et territoriales et les instances, on va dire, politiques et économiques.
Absolument. C'est-à-dire que ce sujet de l'emploi sur un territoire, il n'est jamais pris en lui-même. Chaque territoire essaye, et c'est une bonne chose, d'améliorer son attractivité On travaille aussi, et c'est très bien, sur la formation, on travaille sur... Mais tout cela ne se fait sans véritable cohérence d'ensemble.
Alors, éradiquer le chômage de longue durée, c'est évidemment la promesse des dirigeants politiques. Mais là, on est presque à 2 ans consécutifs de hausse mensuelle du chômage. Est-ce que finalement, que l'on soit d'un gouvernement de droite ou d'un gouvernement de gauche, on ne s'attaque pas aux véritables causes du chômage ?
Je pense qu'il y a plusieurs types de chômage et que... Il est bien de s'attaquer au chômage sur toutes les dimensions. Ce que nous disons, nous, parce que, encore une fois, nous sommes porteurs des expériences et des espoirs des personnes, je dirais, les plus pauvres, les plus éloignées du marché de l'emploi, c'est qu'il y a des choses à faire pour les personnes qui sont le plus loin du marché de l'emploi. Et que les outils existent de manière éparse. Ce qui manque, c'est de les mettre ensemble sous une volonté commune qui ne peut être qu'au niveau d'un territoire et qu'à partir de là, on peut faire la démonstration que le chômage de longue durée n'est pas une fatalité. Le fait de sortir de la fatalité du chômage de longue durée, qui est une réalité pour des générations maintenant successives, ça ne peut que contribuer à la marche générale de l'économie.
Au-delà de cette réflexion sur le chômage de longue durée, quelles paroles vous arrivez à porter à ATD Quart-Monde auprès des gens qui vivent dans une grande précarité et qui ne voient pas le bout du tunnel ?
Alors, nous ne portons pas une parole auprès des personnes qui vivent dans la grande précarité. Nous sommes plutôt à travailler avec elles pour recueillir leurs paroles, leur expérience, pour construire avec elles des projets. Donc, notre démarche, c'est pas d'aller dans des positions de dire aux personnes dans la grande précarité ce qu'elles peuvent espérer ou porter. C'est plutôt de permettre à la société d'entendre leurs espoirs et leurs aspirations. Moi, je suis très frappé. On a une entreprise qui s'appelle Travailler et Apprendre Ensemble, qui est constituée pour moitié par des personnes qui sont, encore une fois, très loin de l'emploi classique et puis des compagnons solidaires. Tous travaillent avec au SMIC et travaille véritablement en équipe. Je suis frappé de la fierté, de la dignité qu'apporte le travail et je suis frappé du fait qu'aujourd'hui, on pêche probablement par une manque d'initiative, manque de hardiesse et les personnes en grande pauvreté nous poussent justement à sortir un petit peu de nos schémas tout faits. Il faut que le travail ne soit pas destructeur, par exemple, de possibilités de vie familiale, de possibilités de vie tout court. Il y a un sujet qui est extrêmement lourd, c'est le travail en miettes, le travail très précaire, notamment pour beaucoup de femmes seules qui élèvent leurs enfants, et ça rend vraiment la vie familiale quasiment impossible. Ça, c'est un premier volet. Et puis, il faut, pour les personnes qui sont très éloignées du travail, il faut redonner le projet du travail, redonner l'espoir dans le travail, parce que très fondamentalement, c'est ce dont les personnes ont envie, c'est ça, elles nous le disent tous les jours. Ce que nous proposons sur pas de chômage de longue durée sur un territoire, c'est une première expérience, c'est bien ce genre de choses. On ne peut pas se satisfaire de situations dans lesquelles il y a une partie des personnes qui sont considérées comme n'ayant pas de valeur en termes de travail. Ce n'est pas possible. Il y a effectivement des choses à réinventer. Nous proposons des choses qui sont concrètes, qui reposent sur des expériences qui ont été réalisées, donc c'est vraiment ça qu'il faut réaliser.
Le président du mouvement ATD Quart-Monde était interrogé par Olivier Bonnel. L'Église respecte la pleine autonomie du Parlement italien, mais les laïcs chrétiens peuvent offrir leur contribution à la vie politique en fonction de leurs responsabilités respectives. C'est le directeur du bureau de presse du Saint-Siège qui l'affirme dans une interview sur le fonctionnement de l'Église universelle et de l'État du Vatican. Le père Federico Lombardi explique que l'Église se limite à donner des indications pour permettre à ses fidèles d'assumer correctement leurs responsabilités. Jeudi, le Salvatore Romano, le quotidien du Vatican, a publié un éloge appuyé du chef du gouvernement italien Mario Monti, qui a présenté sa démission il y a quelques jours, mais qui n'exclut pas de présenter sa candidature aux prochaines élections. Le père Lombardi note que l'Église fait parfois des critiques constructives, parfois des propositions partagées, toujours conformément à la doctrine sociale. En ce qui concerne l'Italie, il arrive que la hiérarchie catholique ou même le pape exprime des jugements ou des préoccupations quand des valeurs importantes sont en jeu pour la dignité des personnes, la justice et la paix. C'est la fin de cette émission. N'oubliez n'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook. Merci de nous avoir suivis.